Galhistoire, l'application qui fait adorer l'histoire. Avec l'application Galhistoire, écoutez et regardez des centaines d'histoires à l'infini. Retrouvez tous les personnages Galhistoire, la série Mythes et Légendes et des nouveautés chaque mois. Vous pensez que vos enfants en sauront plus que vous sur l'histoire de France ou sur la mythologie égyptienne? Eh bien, vous avez raison. Alors, prêt à les faire voyager dans le temps? Essayez dès maintenant l'application Galhistoire à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la classe 2. Avec Dans la classe 2, vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique. Marie Curie, Napoléon ou encore Nefertiti. Écoutez ces figures de l'histoire vous raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public. Prêt ? Alors, en avant pour découvrir Dans la classe 2... Allez, allez, allez! Fin de la récréation, tout le monde rentre! Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces visages tristes? Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe?
C'est que dans la cour, il y a un grand qui nous a dit que l'école, ça servait à rien du tout.
Et il a dit que tout ce qu'on apprenait, ça nous serait jamais utile plus tard.
Et les mathématiques et tout, il dit que c'est bon que pour les intellos.
Et que lui, il préfère apprendre à se battre pour faire la guerre.
Intéressant. Et vous savez quoi? Je vais vous faire rencontrer une grande scientifique qui va vous prouver que ce que l'on apprend à l'école peut être très utile pour plus tard. Et pour ça, on va ouvrir...
Le grand livre d'histoire !
Parfaitement ! Et aujourd'hui, nous allons discuter avec... Marie Curie.
Ça se voit qu'elle est intelligente, je trouve.
Vous avez vu sa grande blouse noire ?
Vous m'avez appelé pour que je vous donne un cours sur la différence entre le polonium et le radium ?
Ouh là là là, non. Je me suis permis de faire appel à vous pour que vous puissiez parler de votre parcours à mes élèves, pour leur montrer que l'école est quelque chose d'important et d'utile.
Ah, très bien. Bon, pour commencer, je suis née à Varsovie, en Pologne, le 7 novembre 1867.
Vos parents aussi étaient des scientifiques ?
Mon père était... professeur de mathématiques et de physique. Ma mère, elle, était institutrice et donnait cours à des enfants comme vous.
Et vous étiez forte à l'école ?
Oui, on peut dire ça. J'étais première à peu près partout.
Et vous avez fait des études très très longues du coup ?
Oui, on peut dire ça. En 1891, lorsque j'ai eu 24 ans, j'ai été admise à la faculté des sciences de Paris. C'est là-bas que mon prénom polonais, qui était Maria... lorsque je suis née, s'est transformée en Marie.
C'était bien les études à Paris.
Oh oui, j'ai adoré. Même si quand je suis arrivée en France, quelque chose m'a choquée.
Le fromage qui sent des pieds. Le français qui est trop difficile à écrire sans faire de fautes.
Ouais, ça aussi c'est vrai. Mais c'est surtout que sur 1825 étudiants inscrits à l'université, nous étions seulement 23 filles. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal. Je suis d'avis que les hommes et les femmes doivent tous pouvoir apprendre comme bon leur semble, et de manière égale. Heureusement, quelque chose me dit qu'à votre époque, la parité est davantage respectée.
Et vous restez en France toute votre vie ?
Quasiment, oui. J'obtiens un premier diplôme en physique, puis un second en mathématiques, et je travaille avec les plus grands scientifiques de mon époque. Puis, étant très attachée à mon pays d'origine, je compte rentrer en Pologne. Mais c'est à ce moment... que je fais une rencontre qui bouscule ma vie.
Ah, l'amour. Elle va pécho.
Tu es pertinent, jeune homme. Car c'est exactement cela. J'ai fait la connaissance de Pierre Curie, un chercheur brillant dont je suis tombée follement amoureuse. Et peu de temps après, nous avons décidé de nous marier durant une belle journée de juillet 1895. En 1897, notre première fille, Irène, est née. Je vous reparlerai d'elle un peu plus tard.
Et... vous travaillez ensemble avec votre mari ?
Oui. Tous les deux, nous nous intéressons aux propriétés magnétiques des aciers et aux rayons X.
Madame Curie, Pour moi, les rayons X, c'est un pouvoir de super-héros, mais en vrai, c'est quoi ?
Très bonne question. Les rayons X, c'est une forme de lumière que l'on ne peut pas voir à l'œil nu et qui peut passer à travers des objets et des êtres vivants.
Tu sais, Malik, quand tu t'étais fait une entorse l'année dernière, ta maman t'avait emmené faire une radio pour voir si ta cheville n'était pas cassée. Eh bien, c'était grâce aux rayons X si on pouvait si bien observer tes os.
Ah, d'accord. Moi, je pensais que ça allait me transformer en super mutant.
Et du coup, Madame Curie, vous faisiez vos recherches dans un grand laboratoire avec plein de microscopes, de super machines et de tubes à essai ?
Ah non, non, pas vraiment, non. Avec Pierre, nous étions assez pauvres. Je m'occupais de coudre les vêtements de ma fille moi-même et notre laboratoire était un vieux hangar à patates que nous avions aménagé. À cette époque, nous faisions des recherches sur l'uranium, un minerai hautement radioactif. Le problème, c'est que nous ne savions pas à quel point c'était dangereux. Et nous n'avions aucune protection.
Alors, vous avez eu des super pouvoirs ?
Pas vraiment, non. Mais je vous en reparlerai un peu plus tard.
Et un chercheur, ça cherche, mais est-ce que ça trouve des fois ?
Bien sûr, bien sûr. En 1898, avec Pierre, nous avons fini par découvrir deux nouveaux éléments radioactifs que nous avons nommés radium et polonium.
Le polonium, vous l'avez appelé comme ça à cause de la Pologne ?
Belle déduction, jeune fille. C'est tout à fait ça.
Et après, vous gagnez un grand prix.
Quoi ? Vous faisiez des courses de voitures aussi ?
Non, Malik. Là, on parle d'un prix que l'on donne à de grands chercheurs, le prix Nobel. Il a été créé par Alfred Nobel, un industriel qui a légué sa fortune pour que chaque année, on puisse récompenser les personnes ayant fait des découvertes en chimie, en médecine, en littérature, mais aussi en physique. Et il est important de souligner que Madame Curie fut la première femme à le recevoir.
Exactement. En 1903, d'abord, puis un second en 1911.
Bravo !
Arrêtez, vous allez me faire rougir.
Oh, vous devez être une star après ça, non ?
Oui. C'est vrai qu'avec mon mari, nous devenons assez célèbres dans la communauté scientifique. Malheureusement, Pierre est victime d'un accident idiot et il meurt le 19 avril 1906. Et moi, je me retrouve seule avec nos deux filles, Irène et Ève. Quelques jours plus tard, je dois le remplacer à son poste de professeur à la faculté des sciences de Paris. Une femme donnant cours à des hommes, c'était vraiment inhabituel à l'époque. Et cela a prouvé au monde entier que c'était totalement possible. La presse dira même que c'est une grande victoire féministe.
Waouh, incroyable! Vous étiez trop en avance sur votre temps.
Merci. Malheureusement, 1914 arrive et, comme vous devez le savoir, c'est la Première Guerre mondiale qui commence.
Pouvez-vous expliquer à mes élèves comment vous y avez participé?
Bien sûr. Pour soigner les blessés de manière plus efficace et plus rapide, j'ai équipé des ambulances d'appareils de radiologie. Avec ces voitures qu'on surnommait les « petites curies », on pouvait se rendre très près des champs de bataille et voir, grâce à mes engins, où se trouvaient les balles et les éclats d'obus dans les corps des soldats. Avec ça, toutes les opérations pour leur porter secours ont été facilitées.
Waouh ! Vous êtes une héroïne !
Mais ce n'est pas tout. En 1916, j'ai passé mon permis de conduire et je suis partie sur le front pour réaliser moi-même des radiographies et aider les soignants. Et ma fille, Irène, qui avait 17 ans seulement, m'a accompagnée pour m'assister. J'ai aussi installé des postes fixes de radiologie dans les hôpitaux qui en avaient besoin. Au final, c'est plus d'un million de blessés qui ont été secourus grâce à mes appareils, dont un millier par mes propres soins.
Bravo !
Alors, vous voyez que les études, ça peut servir à quelque chose.
Et comment ? Il faudrait être complètement mou du ciboulot pour dire le contraire. À la fin de cette horrible guerre, en 1918, j'ai repris ma place à l'Institut du Radium, à Paris. Et ma fille, Irène, est devenue mon assistante. Aujourd'hui, je suis fière de dire qu'au sein de cet institut, j'ai accueilli beaucoup d'étudiants, dont une grande partie de femmes. C'est notamment grâce à cela que beaucoup d'entre elles ont pu devenir de brillantes scientifiques. Mais bientôt, je fus confrontée à un nouveau problème. Je manquais de radium pour poursuivre mes recherches. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce minerai ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval.
Comment vous avez fait alors ?
J'ai sauté dans un bateau pour filer vers les États-Unis. Là-bas, une journaliste qui avait entendu parler de moi m'a aidée en lançant un grand appel aux dons. Et le 21 mai 1921, lorsque je suis arrivée à New York, 100 000 dollars m'attendaient.
100 000 dollars ? Vous avez dû en acheter plein de radium.
Oui, environ un gramme.
Quoi ? C'est tout ? Mais c'est tout riquiqui, un gramme.
Oui, mais c'est largement suffisant.
Vous continuez vos recherches quand vous rentrez en France ?
Oui, toute ma vie a été dédiée à cela, à la recherche et aux découvertes. Mais bientôt, tout cela touche à sa fin.
Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
Le radium, utilisé en petite quantité, permet d'aider à soigner de graves maladies telles que le cancer. Mais moi, je travaillais à son contact tous les jours, et ce, sans aucune protection. Comme je vous le disais un peu avant, cela a eu un impact très très mauvais sur ma santé. Je suis partie me reposer en Haute-Savoie, et je meurs dans ces belles montagnes. Le 4 juillet 1934.
Vous saviez qu'en 1995, votre cercueil et celui de votre mari sont emmenés au Panthéon, à Paris ?
Au Panthéon ? Vraiment ? Oh, quel honneur !
Oui, et même que l'Institut du Radium, dans lequel vous avez travaillé, s'appelle maintenant l'Institut Curie. Et dedans, il y a un musée qui parle de vous.
Eh bien... Entre le Panthéon et ce musée, j'ai du tourisme à faire, moi. Je vous laisse, les enfants. À bientôt.
Au revoir, Madame Marie Curie.
Allez, allez, allez. Vous pouvez sortir, c'est l'heure de la récréation. Eh bien quoi ? Vous ne voulez pas aller prendre l'air ?
Certainement pas. Moi, je reste travailler. C'est trop important pour faire de grandes choses.
Ouais, pas comme ce que nous dit le grand de tout à l'heure.
Ah bon ? Alors, comme vous voulez. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique.
Cet épisode a été écrit par Thomas Le Petit Cor, interprété par Vincent Payet et Clara Ziegler, mis en musique par Léopold de Roy et Fanny Dupuis. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la classe 2. Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média. Retrouve toutes les informations sur maisondupodcast.fr.